La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la Radio Mondiale Adventiste, et qui vous est présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à ce programme. Vous nous écoutez sur les ondes, mais aussi par Internet, sur www.awr.org ou aussi grâce à votre téléphone. Pour notre programme de ce dimanche, nous vous proposons la revue santé avec le docteur Jean Lindsay et ensuite ce sera l'Instant Bible, votre rendez-vous hebdomadaire.
La revue santé avec le docteur Jean Lindsay est présentée par Oscar Miani.
Docteur Jean Lindsay, bonjour.
Bonjour Oscar.
Bienvenue au micro de la revue santé. Vous nous proposez une revue de presse santé et cette semaine, vous nous invitez à nous intéresser au cerveau avec de nouvelles études et particulièrement une sur l'identification de nouvelles causes de la maladie de Parkinson. Et puis, vous nous parlerez de médicaments qui pourraient guérir certaines formes de schizophrénie. Et puis, vous nous parlerez aussi des troubles du sommeil chez la personne plutôt âgée. Alors, on revient tout de suite, sans plus attendre, à cette première étude sur les nouvelles causes qui pourraient provoquer la maladie de Parkinson, docteur Jean Lindsay.
C'est une étude d'un auteur qui s'appelle Brittany Krzyzanowski, qui est publiée dans Neurology. C'est une étude qui a inclus 21 millions de patients.
Ça commence à faire.
C'est une étude géospatiale. C'est-à-dire que on regarde les taux de polluants des territoires et on regarde le taux de malades qui se trouvent exposés à ce polluant. Alors, c'est des grosses bases de données. Et de cette étude, il ressort que la pollution de l'air augmente aux particules fines. Les particules fines, ça augmente le risque de Parkinson de 56%.
Ce qui est pas négligeable.
Ah oui, là on tient parce qu'on parle beaucoup des pesticides. Oui. Là, maintenant c'est acquis. On sait que les pesticides augmentent le risque de Parkinson, mais là on a aussi la pollution atmosphérique avec les fameuses particules fines dont on sait qu'elles rentrent dans le cerveau.
Qui s'imprègnent dans le corps et dans le cerveau.
Ah on le sait, oui, ça rentre dans le cerveau. Ça. La barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la douane qui gère le droit d'entrée ou non dans le cerveau. La barrière hémato-encéphalique est franchie par les particules, les ultra fines, les toutes petites.
Et donc, ça peut être responsable de maladie de Parkinson.
Ah bah oui.
Et sans parler de l'effet cocktail entre les pesticides
Non. Oui, la pollution de l'air semble bien augmenter le risque de Parkinson. Voilà.
La revue santé.
Et puis donc un autre sujet, docteur Jean Lindsay, dans cette revue de presse santé, des médicaments pour guérir certaines formes de schizophrénie.
Alors oui, il y a des schizophrénies dans lesquelles on observe une augmentation des anticorps contre les récepteurs NMDA. Les récepteurs NMDA, N-méthyl-D-aspartate, sont des récepteurs très répandus dans le cerveau. Et on a observé que chez les schizophrènes, il y avait souvent une augmentation des anticorps anti-NMDA, donc des anticorps qui vont attaquer les récepteurs qui se trouvent sur les neurones. Et une étude...
Est-ce qui peut produire donc justement cette schizophrénie
Oui, c'est ça, qui conduirait à cette schizophrénie. Et on a une première étude là, d'Oxford, qui a été faite dans le service de Belinda Lennox, sur un petit nombre de patients souffrant de schizophrénie et séropositifs aux auto-anticorps anti-NMDA. On a montré une amélioration clinique remarquable dans les semaines qui ont suivi un traitement immunomodulateur. C'est-à-dire qu'on diminue la réaction immunitaire et on observe que le schizophrène va beaucoup mieux. Il y a 30% des schizophrènes qui ont des anticorps anti-NMDA. Là, Oscar, aujourd'hui, on se place très en amont de la science. Là. C'est la science qui se fait. Quoi.
Ouais,
ce
sont des découvertes incroyables.
Incroyables. Alors, on a des essais à grande échelle en France actuellement, qui sont en cours.
Donc à suivre alors.
On suivra, on en reparlera.
Sûrement. On en reparlera si sûrement. On a de nouvelles informations.
La revue santé.
Et puis pour terminer notre revue de presse du jour, eh bien les troubles du sommeil chez la personne âgée.
C'est un sujet difficile parce que il y a beaucoup de personnes âgées qui ont l'impression de mal dormir alors qu'en réalité elles dorment bien. Elles ont une perception, mais il y en a aussi qui dorment mal pour de vrai. Hein.
Donc c'est pas donc savoir, juste une impression parfois.
Ouais. Alors on s'est aperçu que ceux qui avaient une réduction du sommeil profond, eh ben avaient une augmentation du risque de démence. Et comment faire pour bien dormir? Eh ben, c'est pas difficile. Avoir un rythme régulier de lever et de coucher.
Oui.
Limiter les excitants, évidemment, café, thé, coca, boisson énergisante. Hein. Surtout pas après 16h-17h. S'exposer à la lumière du jour, surtout ne pas oublier de s'exposer à la lumière du jour le matin. Ne pas rester au lit trop longtemps. Il vaut mieux se lever de bonne heure et aller prendre la lumière du jour.
D'accord.
Au besoin, acheter un appareil de luminothérapie qui permet d'avoir la lumière du jour de manière artificielle, si j'ose dire. Quoi. Ça, c'est vendu maintenant.
Oui, c'est assez répandu.
C'est banal, c'est répandu. Oui. Mm-hmm. Il vaut mieux s'exposer à de la luminothérapie que rien faire. Quoi. Mm-hmm. Ça recale, parce que toutes nos horloges biologiques sont synchronisées et pilotent le sommeil. Et il faut arriver à avoir une bonne synchronisation de toutes nos horloges biologiques pour avoir un bon sommeil. Activité physique, hein, indispensable pour avoir une bonne synchronisation des horloges, mais il faut s'arrêter 3-4 heures avant l'heure du coucher. Pas d'effort intense 3-4 heures avant le coucher, pas de douche chaude avant de se coucher non plus.
Et puis des recommandations sur la température de la chambre?
Alors température chambre fraîche,
oui.
18-20 degrés, pas
oui,
plus.
Oui.
Et puis stopper les écrans au moins 2 heures avant le coucher, ça c'est difficile. Il y a énormément de gens qui s'endorment devant la télé.
Oui.
Et ça, faut fuir. Faut absolument. Le livre, lisez. Le livre, c'est le livre et les journaux, hein, bien sûr. C'est la sauvegarde du cerveau.
Voilà donc.
Comme disait Victor Hugo.
Oui.
Il n'est pas mauvais de rappeler Victor Hugo. Victor Hugo disait, la lecture est à l'esprit ce que la nourriture est au corps.
Voilà pour conclure cette revue santé, docteur Jean Lindsay. Quoi qu'il en soit, soyons de plus en plus conscients que prendre soin de notre santé, c'est aussi prendre soin de son cerveau.
Absolument.
Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle revue santé, où vous nous ferez découvrir les avancées de la science et de la médecine. À bientôt.
À bientôt, Oscar.
Au revoir.
Au revoir, Oscar.
C'était la revue santé avec le docteur Jean Lindsay et présentée par Oscar Miani.
This is Adventist World Radio, the voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
Rise up, O men of God, have done with lesser things. Give heart and soul and mind and strength to serve the King of Kings. Rise up, O men of God, the church for you doth wait, her strength unequal to the task, rise up and make her great. Lift high the cross of Christ, tread where his feet have trod, as brothers of the Son of Man, rise up, O men of
écoutez toujours La Voix de l'Espérance et vous êtes sur la Radio Mondiale Adventiste, AWR. Tout de suite, voici l'Instant Bible.
L'Instant Bible. La Bible à la portée de tous. Présenté par Stéphane Vincent.
Bonjour à tous, merci de votre fidélité à l'Instant Bible. Nous continuons notre périple à travers les psaumes, aujourd'hui avec un thème qui mérite toute notre attention, la repentance au travers de l'histoire du roi David. Et nous avons par bonheur avec nous deux poids lourds de la repentance, les deux pasteurs qui sont présents, Philippe Leduc et Pascal Rodet. Bonjour.
Bonjour, merci pour les poids lourds.
Bienvenue avec nous. Alors, pour commencer, puisque nous associons souvent le roi David au psaume, puisqu'il en a écrit beaucoup, pasteur Philippe Leduc, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement qui est ce roi David?
C'est un des rois les plus célèbres, roi d'Israël, qui est surtout connu pour ce qu'il a fait de bien, pour aussi les psaumes qu'il a écrits. Mais, comme on dit, dans tous les hommes, il y a toujours une partie un petit peu plus négative, et David n'était pas non plus le roi parfait, et il y a eu des moments où il n'a pas été très correct,
on peut dire. Justement, oui, il a vécu un épisode un peu malheureux dans sa vie. Vous pouvez nous en parler?
Voilà, alors on trouve ça dans 2 Samuel chapitre 11 et 12, où on nous explique que le roi était à Jérusalem, même si c'était un temps de guerre, mais lui était à Jérusalem, et on nous raconte qu'à la fin d'un après-midi, après sa sieste, David est en train de se promener sur le toit de sa terrasse, de son palais, et voilà qu'il aperçoit au loin une femme qu'il va trouver très très belle, à tel point qu'il va la faire chercher et qu'il va passer la nuit avec elle, et que suite à cela, elle va tomber enceinte. Et donc, pour cacher cette chose-là, qui n'est pas très bon pour roi, pour éviter tout ce qui est polémique et tout cela, il va décider d'envoyer le mari de cette femme à la guerre pour qu'il se fasse tuer à la guerre et pour ensuite être débarrassé, pouvoir profiter entre guillemets de cette femme sans être embêté.
Pour se donner bonne conscience,
faut,
en quelque sorte.
Il faut avouer que c'est pas très 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 bon, et c'est ce qui va donner ensuite naissance à un psaume qu'on va voir tout à l'heure. Mais voilà, le nœud de l'affaire, c'est cela, la convoitise d'une femme. Il est tombé éperdument amoureux de cette femme et il a fait des choses derrière répréhensibles.
Et alors, pasteur Pascal Rodet, comment il s'en est sorti de cette histoire, le roi David?
Alors, pas très très bien, hein. C'est vrai que là, à un moment donné, à regarder cette femme, il avait l'esprit qui a un peu vrillé.
Il a perdu un peu
perdu un peu les pédales, ouais. Non, c'est franchement assez important, hein, puisque là, non seulement il y a, si on rappelle un peu les règles de Dieu, il y a à la fois un adultère, il y a presque un assassinat, hein. Envoyer quelqu'un à la guerre et surtout lui demandant d'être en première ligne pour qu'il se fasse tuer, c'est quand même un phénomène assez dégradant. Mais et le pire dans tout ça, c'est que ben voilà, ça y est, il est mort, il va pouvoir se marier, tout va bien. Et pour un roi qui est sensible à l'injustice, il va continuer sa vie comme si de rien n'était. Il a fallu qu'il y ait l'intervention d'une personne tierce pour lui rappeler des choses.
De qui?
D'un prophète. D'accord. D'un prophète, Nathan, qui...
Il n'avait pas la tâche facile, alors, ce prophète
non,
Nathan.
Non, pas la tâche facile. C'est toujours très difficile d'aller voir une personne et de lui expliquer « Mon petit bonhomme, je ne sais pas ce que tu as fait là, mais tu as complètement été... »
Surtout quand c'est un roi qui a le droit de vie ou de mort sur vous.
Exactement, exactement. Et surtout quand c'est un roi qui... se veut être le roi qui bataille contre l'injustice et qui en fait une grosse injustice. Là. Alors, il va utiliser un petit stratagème assez intéressant. Il ne va pas parler de son problème, il va parler d'un problème de quelqu'un d'autre, d'une histoire, où il va ici rappeler, ben voilà, il y a un riche, super riche, qui a tout ce qu'il veut, qui a prévu un repas avec des amis... Mais plutôt que de prendre dans son troupeau le bon michoui, bien dodu, etc., il va aller voir le pauvre qui a une seule brebis, qui a que ça, qui l'a chéri, qui dit « bah tiens, je vais lui prendre pour faire le michoui à la place des miens, c'est très bien ». Donc ça, c'est l'injustice par excellence, à tel point que David se met en colère en disant « mais Mais c'est pas normal, c'est un scandale, c'est, ça ne devrait pas, il faut qu'il soit condamné, etc. Et Nathan a cette phrase qui va complètement anéantir David, mais le ramener un peu à la réalité. Cette phrase, c'est « Mais ce riche, c'est toi ». Et là, d'un seul coup, oh « Ah oui, mince ». Et c'est à cette partie-là où il va commencer à une démarche de repentance, une démarche où il va dire « Oui, c'est là j'ai péché ».
Et alors, pasteur Philippe Leduc, suite à cette repentance qui s'opère dans le cœur du roi David, le résultat, c'est un psaume.
Voilà, il va écrire. Il va écrire l'introduction du psaume 51. On nous dit que c'est un psaume de David. On nous raconte même au début du psaume le contexte. Hein. On nous dit le roi David a pris Bathsheba, la femme d'Uri, et le prophète Nathan va le trouver. Et ensuite, David va écrire ce qu'il a dit non seulement à Nathan, mais surtout ce qu'il a dit à Dieu. Et dans ce psaume 51, on a la repentance de David. Ce qu'il a dit comme une prière. Hein. Et le psaume commence par « Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. » Et un peu plus loin, il va dire « Oui, je reconnais mes torts. » Et il va expliquer qu'en effet, que l'intervention de Nathan a été salutaire dans son cas. Il a pris conscience de ce qui s'est passé. Et il va dire à Dieu « Pardonne-moi, en effet, j'ai fauté. »
Et alors, dans ce psaume 51, je me tourne vers tous les deux à la fois, qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce texte, personnellement ?
Alors, pour moi, il y a plusieurs éléments, mais un qui est assez important, c'est le fait que David reconnaisse non seulement son incapacité à être toujours juste, donc oui, parfois on peut pécher, ça arrive, on peut faire des bêtises, ça arrive, et de rappeler que seul c'est au travers de Dieu que je peux me retrouver face à quelque chose de plus juste. Il y a plusieurs versets qu'on pourrait prendre dans ce psaume. Hein. Il se souvient en fin de compte qu'il est quelqu'un d'un homme comme tous. Hein, verset 7 par exemple. « Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. » Là, il est en train simplement de dire « Bah oui ». C'est pas parce que je suis roi, c'est pas parce que je suis avec Dieu que je suis top à 100% à chaque fois. Je vis dans un monde de péché. Et ça, je trouve que c'est important de le comprendre pour cette première démarche.
D'autres choses vous touchent, vous, pasteur Philippe?
Oui, parce qu'il va dire qu'en fait, il a fait du mal, oui, à Bathsheba, il a fait du mal, bien sûr, à son mari, mais il va reconnaître que le mal qu'il a fait à l'autre, c'est comme s'il avait fait du mal à Dieu lui-même. Et il va dire « Depuis ma naissance, je suis marqué par le péché, oui. Enlève mon péché, lave-moi, je serai parfaitement purifié. » Et un petit peu avant, il va dire « Contre toi et toi seul, j'ai péché. » Alors qu'on pourrait dire « Non, il a fait du mal à deux personnes. » Mais lui, il va dire « Non, il reconnaît que le mal qu'il fait à ces personnes, c'est à Dieu qu'il l'a fait aussi. » Et pas seulement à des personnes humaines.
Ça a des avantages, ça, de reconnaître ses torts, là, comme le fait le roi David, ou est-ce que ça a surtout l'inconvénient de nous mettre au fond du trou ?
Ah non, justement, c'est parce que je vais reconnaître que ça m'évite d'être au fond du trou.
Ah, vous pensez ça, que oui, quand on reconnaît ses torts, ça évite d'être au fond du trou ?
Mais oui, parce que si j'ai pas l'impression d'avoir fait de problème, qu'est-ce qui va me pousser à demander pardon ? C'est à partir du moment où je reconnais que j'ai fait du mal à quelqu'un, que je vais être poussé à rétablir quelque chose.
Oui, mais prendre conscience de ce qu'on est, finalement, c'est pas toujours très agréable.
Mais c'est mieux que de se dire tout va bien, alors qu'au fond de moi-même, c'est en train de me grignoter petit à petit sans m'en rendre compte. On ne peut pas rester neutre lorsqu'on a fait une faute, lorsqu'on a péché.
On ne peut pas l'occulter, l'enterrer, puis faire comme si ça n'avait jamais existé.
On peut marquer une carapace, mais cette carapace va devoir être de plus en plus épaisse si je ne veux pas le sortir, mais au fond de moi, il y est, j'ai fait des bêtises. Et après, je vais avoir des réactions qui vont être justement pour éviter de le dire. Mais ça peut être plus violent encore.
Pasteur Philippe Leduc, il suffit de reconnaître qu'on a causé des torts à quelqu'un pour que les choses s'arrangent.
C'est la première étape.
Ça, c'est la première étape.
Mais comme je dis, c'est l'importance des miroirs. Hein. Si le miroir n'existait pas, ce serait compliqué. Pour réaliser vraiment notre apparence. Hein, donc là, c'est la même chose. Reconnaître que j'ai fait une faute, c'est le point de départ pour la deuxième partie du processus, qui est maintenant je vais essayer de réparer, de demander pardon, ce qu'on appelle la repentance.
Oui, la repentance est complète quand on va jusqu'au pardon, en réalité.
Il faut aller jusqu'au bout.
La demande de pardon.
Et parce qu'il y a souvent des conséquences de notre action. Ouais. Il y a des choses qu'on peut pas réparer, malheureusement, c'est fait. Mais il y a peut-être des choses qu'on peut faire quand même pour apaiser la souffrance de l'autre. Et l'apaisement de la souffrance, c'est reconnaître que je lui ai fait du tort et avoir une démarche vers lui, en lui disant, voilà, je te demande pardon.
Et puis, il y a une chose aussi qui est importante à éviter.
Oui.
Souvent, quand on ne veut pas parler de ses fautes, parce que je suis quelqu'un de bien, etc., c'est de l'orgueil, ça. Et David en est conscient, à tel point qu'il va le marquer dans le psaume 51, où il va dire, mon sacrifice au Dieu, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. Dans le sens où, parce que je suis quelqu'un de bien, je ne veux pas dire que j'ai fait mal. Ça, c'est l'orgueil, ça. On est tous, à un moment donné, à avoir fait des fautes, des erreurs. Et cet orgueil, c'est quelque chose de très négatif dans la Bible. On ne peut pas vivre correctement si on garde un orgueil. D'où l'importance que David, ici, explique que son orgueil brisé, sa reconnaissance du mal qu'il a fait, c'est comme un sacrifice qu'il fait à Dieu.
Pour tous ceux qui nous écoutent là en ce moment, et pour ceux qui auraient des difficultés justement à reconnaître leur tort, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner à ces personnes?
Je pense qu'on connaît tous des personnes, et peut-être qu'on est dans ce cas-là aussi nous, hein, mais quand on croise des personnes qui ne reconnaissent pas leur tort, c'est très pénible. Et c'est très difficile de vivre avec ces personnes parce que on a l'impression qu'elles sont dans le déni tout le temps, que c'est tout le temps la faute des autres et jamais de la leur. C'est difficile de construire une relation avec ces personnes-là, et c'est vraiment salutaire qu'à un moment donné, et c'est un bon ami qui peut le faire. Dire, écoute, c'est parce que je suis ton ami que je t'exhorte à faire ça, parce que ça te fera du bien toi-même. Reconnaître ses torts, c'est avancer, c'est pouvoir être honnête avec la personne.
Et puis je crois qu'il y a aussi quelque chose de terrible. Alors je prends par exemple dans les familles où, à un moment donné, quand on est parent, père, mère, il faut qu'on donne la bonne image auprès de nos enfants. Hein. On est un père super bien, fort, héroïque, pour reprendre une image d'émission précédente. Hein, on est quelqu'un qui est là pour ça.
Il ne se trompe jamais.
Voilà, c'est pas moi, je suis quelqu'un de super bien. Les enfants ne sont pas dupes. Quand on fait une bêtise et qu'on essaye de le cacher, quand on a fait mal, les enfants ne sont pas dupes. Ils vont la fermer, bien sûr, ils vont se taire. Mais ils savent que là, d'un seul coup, il dit quelque chose et là, je vois que ça ne va pas. Mm-hmm. Si le père ou la mère, à pas ricocher après parler avec les enfants aussi, mais ne reconnaît pas une bêtise qu'il a faite, ça c'est mal. Et je voudrais demander pardon à ceux que j'ai fait mal. On donne une image auprès des enfants qui va marquer leur esprit en disant il faut souvent demander pardon pour remettre une image correcte.
C'est pas une faiblesse de reconnaître ses torts en fait, c'est une force de caractère de pouvoir reconnaître ses torts.
Donc.
Et ça nous grandit. Alors que certains pensent que ça va nous dégrader dans l'image que les autres ont de moi. Mais non, c'est une force de caractère. Et je pense que c'est apprécié par les autres. Il a reconnu. Bon, chapeau.
Avec un Dieu patient et indulgent, il est bon de reconnaître ses torts, rentrer dans un processus de réparation et justement pouvoir en sortir grandi, en se servant de nos erreurs comme d'un tremplin et non pas comme des sables mouvants qui nous emprisonnent et nous étouffent. En ce sens, la repentance est vraiment un cadeau que la Bible nous invite à apprécier à sa juste valeur. N'hésitez pas d'ailleurs à nous demander une Bible à l'adresse qui sera mentionnée juste à la fin de cette émission et nous aurons le plaisir de vous en adresser une grâce à notre partenaire Obible. Pasteur Philippe Leduc et pasteur Pascal Rodet, merci beaucoup encore une fois d'être venus ici dans cette émission pour partager avec nous autour des sujets de la Bible. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.
C'était l'Instant Bible. Présenté par Stéphane Vincent. Connais-tu l'IEBC ?
Non, c'est quoi ?
C'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tout.
En effet, étudier la Bible, c'est vraiment fun. J'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous et c'est très intéressant.
Moi, j'ai suivi le cours Au nom de l'amour. Il me tarde de découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, par exemple, eh bien, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien, vous faites le 00 33 1 80 14 44 77. Et si vous voulez nous écouter depuis les États-Unis, eh bien, vous composez tout simplement le 1 712 432 9 978. Et bien évidemment, tous ces numéros n'en sont pas Et bien évidemment, tous ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Et si vous voulez nous écrire, et oui, dernière chose, si vous voulez nous écrire, eh bien, vous pouvez nous contacter à france@awr.org. Notre émission est maintenant terminée. C'était La Voix de l'Espérance et vous étiez sur la Radio Mondiale Adventiste AWR. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30, et puis à 8h, et aussi à 20h sur cette même antenne. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.